première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes à l'automne 1905 à Liège. C'est là, à l'université, qu'entre le 30 septembre et le 2 octobre, quelques dizaines d'intellectuels, membres ou non du monde associatif, se réunissent pour observer et évaluer la place de la Wallonie dans l'histoire et ainsi la projeter dans l'avenir. Alors, quelle est son identité? Quel est le sentiment wallon dans la littérature, la musique, les arts en général? Au-delà de ces questions, il s'agit aussi pour les intervenants de préparer un programme de défense contre ce qu'ils appellent les exagérations flamingantes. Initiateur de l'événement, le libéral Julien Delette et le professeur et écrivain Oscar Colson, ils organisent par exemple un débat qui oppose Henri Pirenne, considéré comme l'inspirateur de l'école historique française, dite École des Annales, qui propose une histoire globale, et l'écrivain et militant wallon Hector Chénet. Ce congrès, qui se tient dans le cadre de l'exposition universelle de Liège, organisée à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance de la Belgique, a-t-il porté ses fruits? A-t-on assisté par la suite à ce que l'on pourrait appeler la légitimation culturelle de la Wallonie? On va tenter d'apporter quelques réponses.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Wallon, chantons, le chant met du soleil dans l'âme. Encore, sans peur, reprenons les vieux airs que l'on acclame.
Un extrait de Radio Wallonia, une petite radio locale dans les années 30 d'un passionné de radiodiffusion. C'est une archive de la Sonuma. Alors pour évoquer ce congrès wallon de 1905, Maud Gonne est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche du FNRS en études de la traduction à l'Université de Namur. Donc vous vous intéressez beaucoup à cette question à travers, notamment, on le verra tout à l'heure, donc la traduction. Fin septembre, début octobre 1905, donc se tient à Liège le 5e congrès wallon. On va replacer tout cela dans un contexte national. Hein, 7 ans plus tôt, avec le vote d'une loi d'égalité qui a profondément modifié le paysage de la Belgique.
Tout à fait, oui. La loi d'égalité, ou la loi de 1898, ou Coremans de Vrint, du nom du député flamand qui l'ont dessiné, stipule que les lois sont désormais votées, sanctionnées et publiées en français et en irlandais. Enfin, en français et en flamand. Et ça, on y reviendra après. Et ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est un grand pas vers l'instauration du bilinguisme en Belgique, tel qu'on le connaît.
Ce qui va provoquer, bien sûr, des tensions. On va y revenir.
De nombreuses tensions.
Ouais. On va préciser encore, Maud Gonne, que la Wallonie n'en est pas son coup d'essai en 1905 en matière de congrès qui réfléchit justement à son identité.
Oui, il y a déjà eu des congrès entre 1890 et 1893 à Liège, Namur, Mons et Bruxelles. Mais à ce moment-là, on s'intéressait surtout à la question du français à Bruxelles et très peu à l'identité wallonne.
Ouais, il y en avait eu un aussi, une tentative à Verviers qui avait été annulée en 1894 pour raison de dissensions internes.
Ah oui, ben ça ne m'étonne pas.
Et on reviendra justement à ces dissensions. Alors, quels sont les objectifs de ces différents congrès, en général?
Alors, des premiers congrès, comme j'ai dit, c'est vraiment la défense du français à Bruxelles. Par contre, en 1905, c'est un congrès particulier parce que, pour la première fois, on essaye de définir une identité wallonne et d'exalter, j'utilise le terme de l'époque, d'exalter une âme wallonne.
Ouais.
Et ça ne vient pas par hasard, ça vient effectivement de... c'est en réponse à la loi de 1898 qui, à ce moment-là, met le français et le flamand sur le même pied. Et ce qui est ressenti comme injuste par les militants wallons qui considèrent qu'eux-mêmes ont une langue, qu'ils parlent chez eux, c'est le wallon, et qu'il n'y a pas de raison d'imposer le flamand partout en Belgique. Et ça change énormément de choses au niveau de la configuration professionnelle en Belgique, parce que ça voudrait dire que, par exemple, les magistrats, que les fonctionnaires devraient parler français et flamand. Et donc, évidemment, on a un petit peu peur que, du côté wallon, on ne recrute plus trop du côté wallon. Donc ça, c'est aussi un gros problème.
On y reviendra tout à l'heure. Alors, il y a les pionniers du mouvement wallon, déjà en décembre 1892, une poignée de passionnés qui ont fondé la revue Wallonie, sous-titrée « Archives wallonnes d'autrefois, de naguère et d'aujourd'hui ». C'est la revue Wallonia, exactement. Et puis un homme, le libéral Julien Delette, donc qui va
joué un rôle déterminant dans la création de la Ligue Wallonne de Liège en 1897. Liège qui joue un rôle prépondérant dans cette question wallonne.
Oui, Liège est vraiment su représenter lors du congrès, ce qui pose aussi quelques problèmes. Mais bon, on essaye quand même d'inviter des représentants de toutes les provinces wallonnes. Mais évidemment, comme c'est un congrès qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de la Wallonie et qui veut marquer sa singularité par rapport à l'histoire belge et flamande, ben, il est évident que la principauté de Liège a une histoire à présenter ouais. qui est différente, puisque jusque la Révolution française, la principauté restait indépendante, tandis que toutes les autres provinces vivent plus ou moins une même histoire. Avec la Flandre.
Ouais. La Ligue Wallonne de Liège possédera jusqu'en 1902 son propre organe de presse qui s'appelle L'Âme Wallonne. En 1898, donc, on peut lire un plaidoyer en faveur d'une séparation administrative du pays. On ne va pas quand même jusqu'à la séparation du pays, l'indépendance de la Wallonie.
Ah non, d'ailleurs, toujours pas actuellement. Ouais, ouais. Mais donc, en 1905, on ne parle pas encore de séparation administrative. C'est vrai que Julien Delaide, qui est un des plus virulents, des acteurs les plus virulents du Congrès, avait déjà proposé ça en 1898, directement ouais. après le vote de la loi. Mais il faut attendre 1912, le Congrès de 1912, pour que la séparation administrative de la Belgique soit étudiée. Et là, on reste au stade de l'étude. Et à ce moment-là, toutes les autres questions, qui sont les questions culturelles, philologiques, littéraires, sont mises de côté. Là, on se focalise en 1910 uniquement sur cette question-là, diviser le pays en trois régions, Brabant, Wallonie et Flandre.
La Ligue Wallonne de Liège décide donc d'organiser ce 5e congrès wallon dans le cadre de l'exposition universelle de 1905 qui se tient dans la Cité Ardente. C'est une date qui correspond avec le 75e anniversaire de l'indépendance de la Belgique, et le congrès reçoit le patronage du roi, qui est censé garantir l'unité de la Belgique, et du gouvernement. Ça peut paraître cocasse quand même.
Oui, ça peut, et d'ailleurs Chenet, dont vous parlez tout à l'heure, par exemple, Henri, et on le voit dans ses interventions, il trouve ça marrant, mais en même temps c'est assez logique, parce que à partir du moment où le gouvernement patronne un événement, comme il pouvait patronner par exemple l'opéra ou l'académie en Flandre, c'est une façon aussi de rappeler le contexte qui est belge, le contexte de la Wallonie, et finalement que la Wallonie essaye de se définir, pourquoi pas, à partir du moment où il y a un discours supérieur qui chapeaute le tout, et qui est le discours de l'âme belge. Mais évidemment, les congressistes, eux, sont contre ce discours de l'âme belge. Ils en rient pendant tout le congrès. Donc oui, cocasse, mais en même temps logique.
Et c'est Julien donc Delaide qui prononce le discours d'inauguration. Alors, en principe, le congrès doit exclure toutes les considérations politiques.
Ah oui. Mais bon, évidemment, tout ce qui a trait à la langue en Belgique est politique, toujours aujourd'hui. Donc, oui, ils disent qu'ils ne veulent pas parler de la politique de parti. Donc, les libéraux, les catholiques, ils ne veulent pas se diviser dans les trois grands piliers de la politique belge. Mais par contre, ils parlent d'une politique de race. Donc, c'est très problématique, évidemment, de parler aujourd'hui de race. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était un discours, malheureusement, ambiant. Ouais. Donc la question de la politique était omniprésente, et on voit aussi une rupture qui se forme peu à peu entre les scientifiques et les politiques.
Le 10 août 1905, un peu plus d'un mois avant le congrès de Liège, le député anversois Cormans, que vous avez évoqué tout à l'heure à propos de la loi, avait déclaré « Les Wallons ont un passé sans gloire ». Alors l'affront va-t-il être lavé? C'est ce que nous allons voir avec vous, Maud Gonne.
Et mal les autres, elle dit qu'il a fait mon temps. Nos terres est petite, mais nous avons la richesse. Les hommes sans yeux qu'en oublier le nom. Mais nous avons des libertés de la caisse. Voilà pourquoi nous c'est qui le soyons. Mais nous avons des libertés de la caisse. Voilà pourquoi.
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Le chant des Wallons, donc c'est le chant des Wallons, écrit en 1900 en langue wallonne, plus spécifiquement parlé de Liège, par Théophile Bovy, mis en musique en 1901 par Louis Hillier, qui est adopté comme l'hymne officiel de la Wallonie. Alors nous sommes avec Maud Gonne sur les traces donc de ce congrès de 1905 organisé à Liège, congrès wallon. Nous avons organisé ce congrès en dehors de tout esprit de parti, dira Julien Delette, pour exposer les justes revendications des Wallons et pour exalter l'âme wallonne. Nous ne voulons critiquer que ce qui est critiquable, mais nous voulons tout dire, le dire sans cruauté. Nous n'attaquons pas les Flamands, mais nous entendons flageller les exagérations flamingantes qui menacent l'intégrité de la patrie belge. Nous voulons aussi mettre en lumière ce que les Wallons furent dans le passé, ce qu'ils réalisent dans le présent et ce à quoi ils aspirent pour l'avenir. Alors Maud Gonne, dans quelle langue va-t-on s'exprimer au cours de ce congrès wallon de 1905 ?
Eh bien en français, principalement, mais pas uniquement. Pour quelques interactions mais plus symboliques, on utilise le wallon, notamment la veille du congrès, Julien Delette mène tous les congressistes à Sainte-Walburge pour commémorer l'implication des Wallons dans la Révolution belge de 1830. Alors là, il prononce un discours en wallon où il flagelle, comme vous venez de le dire, les exagérations flamingantes qui menacent la grande œuvre patriotique de 1830. Et puis, il y a aussi Henri Bragard, qui est un congressiste très intéressant, parce qu'il vient de Malmedy, et à l'époque, Malmedy faisait partie de la Prusse. Donc, et là-bas, bon, le français était réprimé, donc l'opposition à la germanisation se faisait en wallon. Donc lui aussi s'exprime en wallon au congrès, de façon tout à fait symbolique. Puis à la fin aussi, il y a au banquet final, évidemment, on chante en wallon. Oui.
Alors, en ce début du XXe siècle, donc, quelle est la place du wallon dans la vie courante, précisément?
Il est omniprésent. En fait, à partir de 1830, il faut penser que la Belgique est une nation où une élite parle le français, une élite au pouvoir, qu'il y a une bourgeoisie qui est bilingue, dans le nord du pays franco-flamande, dans le sud du pays franco-wallonne, et puis que le peuple, un peu partout, parle des dialectes flamands, wallons, germaniques. Et ce peuple, évidemment, a une part bien plus importante dans la population. Et on a très très peu de preuves officielles de la présence du wallon, parce qu'en fait, il y avait des recensements linguistiques qui ont été réalisés dès le début, mais on a toujours refusé de prendre le wallon en compte. Donc toute personne qui parlait wallon, on l'assimilait au français. Donc ça, c'est un premier problème. Mais il y a eu quand même une étude qui a prouvé que jusque 1920, 80% de la population préférait utiliser le wallon pour communiquer avec les autorités locales. Ce qui est très important comme résultat, parce que ça veut dire que c'est pas juste les gens entre eux qui parlent wallon, c'est aussi pour les questions politiques plus importantes.
Ouais. Il ne faut pas se méprendre sur le sens de ce congrès, dira le vice-président du Sénat, le libéral Émile Dupont. Il n'a pas pour but de détrôner la langue française admirable d'élégance, de clarté, de précision, à telle enseigne que tous les peuples en ont fait leur seconde langue. Quelle place peut-on alors accorder au patois wallon dans cette langue, vous venez d'y répondre. La place du wallon dans la vie publique en particulier, dans l'administration, l'éducation, la justice, elle sera au centre du congrès en 1905. Il y a la loi de 1889 qui permet d'être jugé en flamand au cours de procédures judiciaires, aussi bien en Flandre qu'à Bruxelles. Et cette loi, elle est remise en question par Julien Delette. Vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, parce que finalement, elle est assez injuste par rapport au wallon.
Elle est injuste principalement parce qu'on utilise le terme langue flamande, et Vlaamse taal, dans la loi, ce qui veut dire qu'on met une langue, le français, et ce qu'on considère comme une myriade de dialectes sur le même niveau. Et évidemment, les perspectives pour un locuteur d'un dialecte ou d'une langue ne sont pas les mêmes au niveau professionnel. Donc, les militants wallons ont peur pour l'émancipation sociale des jeunes wallons. S'ils doivent apprendre une langue, un autre dialecte, plutôt qu'une langue nationale comme l'anglais ou l'allemand, c'est problématique. Donc, les discours n'ont pas changé aujourd'hui. Ouais. On est toujours dans ces mêmes considérations.
Et propose, lui, de réformer le recrutement des magistrats.
Donc, lui, il propose quelques lois, ce sont des vœux, une liste de vœux, dans lesquels il exige que les magistrats aient une connaissance orale, en tout cas, du wallon. Et finalement, c'est très symbolique, parce que c'est par représailles. À d'autres moments, il dit ce sont des représailles, mais c'est d'une certaine façon pour être sûr que l'inculpé puisse comprendre de quoi il s'agit, évidemment. Et c'est aussi pour s'assurer qu'il n'y ait pas un corps de magistrats principalement flamands, qui soient actifs en Wallonie.
Et il va proposer aussi ces mêmes réformes dans l'administration en général.
Oui, pour les fonctionnaires, il va exiger le bilinguisme franco-wallon des fonctionnaires en Wallonie, pour tous ceux en tout cas qui sont en contact avec le public.
Et les traducteurs, ils sont déjà présents dans le sillage de l'administration, de la justice, etc.
Les traducteurs sont très présents en Flandre depuis le début. La traduction, c'est vraiment une façon, l'arme, on va dire, du mouvement flamand pour imposer peu à peu la langue flamande au niveau national. Par contre, en Wallonie, c'est inexistant. Il doit y avoir des traducteurs, évidemment, les gens traduisent de façon naturelle, mais c'est pas institutionnalisé. Ouais.
Et c'est là, évidemment, que le bas va blesser, on va y revenir avec vous, à Maud Gonne. Exigeons qu'on encourage nos œuvres au même titre que les autres, dira encore le libéral Émile Dupont, que tous les subsides soient accordés pour le dictionnaire scientifique et général de la langue wallonne, comme il est accordé pour le dictionnaire flamand. Revendiquons le droit de notre langue. Nous sommes donc au Congrès wallon de 1905 à Liège avec Maud Gonne.
Vous dites que j'ai l'accent, madame, et vous avez raison, aucun doute n'est possible. C'est l'accent wallon. Je n'ai rien fait pour le perdre, jamais je n'ai voulu. Rien ne me dit d'ailleurs que j'y suis parvenu. Et mon accent, comme un insigne pour ton boutonnière, c'est un drapia qui flotte, une pancarte, une bannière. Et pourquoi n'est venu le tir, c'est notre après tout, nos moments, nous l'amener, nous l'avons, c'est dans nous. Pourquoi vouloir le piètre? C'est une marque de fabrique, c'est un certificat, casse valeur, qu'est-ce que tu dis? Mais je suis fier de mes.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Voilà donc un témoin fier de parler le wallon. C'est une archive de la Sonuma. Le wallon est le langage aimé de nos ouvriers, de nos paysans. On a le devoir de le comprendre pour pouvoir s'adresser aux masses laborieuses. Notre race doit être respectée comme toute autre. Des paroles encore d'Émile Dupont. Alors la langue de l'éducation sera un autre point de débat au congrès de 1905. Maud Gonne, le bilinguisme flamand-français est nécessaire en Flandre, remarque Julien Delette. Tout le monde l'admet. Alors pourquoi pas en Wallonie? Quels sont les arguments qu'il va apporter?
La question de l'enseignement du wallon en Wallonie est très peu abordée, puisque ça reste une question fort symbolique. Les scientifiques, les philologues, eux s'inquiètent. Ils ont vraiment envie que le wallon soit mis à l'honneur, fût-ce que pour ne pas engendrer, comme ils disent, des déracinés. Et puis aussi parce que le français est pour les jeunes wallons déjà une langue étrangère. Mais par contre, pour eux, le flamand serait un frein à l'ascension sociale des jeunes wallons qui doivent déjà apprendre une langue étrangère.
Deux groupes vont s'opposer lors du congrès wallon 1905. C'est des tensions qui vont se cristalliser autour de la loi de 1873 sur l'utilisation des langues. Quels sont ces groupes? Il y a des modérés et puis des plus radicaux.
Au sein du congrès wallon, il y a effectivement des modérés, des plus radicaux. On va dire qu'autour de Oscar Colson, qui représente plutôt les culturels, les scientifiques, on est assez modéré. On trouve que le flamand a tout à fait sa place en Belgique, a sa place en Flandre. Il ne doit pas être la seconde langue en Wallonie, mais par contre, c'est une très bonne idée de chérir sa langue. Par contre, les politiciens, eux, s'opposent même au bilinguisme en Flandre. Donc ils veulent vraiment que la Belgique reste monolingue français et que, on parle des dialectes en Flandre comme en Wallonie, mais ils veulent vraiment éradiquer cette loi même sur le territoire flamand.
Et finalement, ça va avoir un effet pervers pour justement cette reconnaissance du wallon, c'est que le débat il se focalise sur le français, de nouveau, le français par rapport au flamand.
Oui, c'est ça. Et le wallon est utilisé, est instrumentalisé finalement pour imposer, conserver le français au niveau national et pour conserver la place d'une élite francophone qui est déjà en place.
L'un des moyens pour donner au wallon une vraie place serait de recourir, pensent des membres du Congrès, à la traduction des documents administratifs, par exemple comme c'est le cas en Flandre, on en est encore loin, vous le disiez. Alors, ce que les wallons mettent en avant pour ne pas imposer le choix du flamand comme deuxième langue apprise à l'école, c'est qu'ils apprennent déjà effectivement le français comme une deuxième langue. Donc, on a vraiment... On est wallon, on parle wallon, et le français est une langue étrangère, alors au début de ce siècle.
Oui, et c'est vraiment comme ça que c'est considéré. Il y a énormément de témoignages écrits de ce problème pour les jeunes wallons de s'insérer dans une société qui est francophone. Et on voit même au cours du 19e siècle, donc, comme je vous ai dit, on a très peu de traces, mais par exemple, on voit que dans les manuels scolaires, apprendre une centaine de mots de français en première primaire, voilà, ça c'est un objectif très important pour un instituteur.
Quelle place pour le parler wallon? Quels sont les résultats du congrès de 1905? On l'a vu, il y a déjà un peu cette effet pervers de se focaliser sur le français. L'identité wallonne a-t-elle été renforcée par ce congrès? C'est ce que l'on va voir avec Maud Gonne.
Être wallon, c'est quoi?
Est-ce que tu te sens wallon aujourd'hui?
Tout à fait.
Mais c'est quoi être wallon?
Je sais pas vraiment.
Être wallon, je vois pas vraiment, enfin, habiter en Wallonie, ouais.
Bah, être wallon, c'est pas être dans la Flandre. Tout simplement, c'est être un wallon.
Je suis né en Wallonie, je connais les racines wallonnes, je parle le wallon. Je suis parti en France, à Marseille, où là le langage était un peu différent, le langage méditerranéen. Et pourtant, moi, je continuais de temps en temps à parler wallon, ça faisait bien rire tout le monde, mais j'ai continué à le faire parce que tout simplement, voilà, je suis fier de mes origines.
Je crois qu'il existe vraiment une identité wallonne. Les habitants de la Wallonie partagent un certain nombre d'expériences de vie qui les distinguent d'autres personnes. Par la culture, évidemment, par le folklore.
Un jour dans l'histoire, sur la première,
Laurent de Hausset.
Où l'on parle de l'identité wallonne, toujours en 2014, ici avec ce reportage de Daniel Welter pour le JT de la RTBF, avec le footballeur Daniel Van Buyten, et l'interview de Télécembre de l'auteur wallon Michel Robert. Alors, Maud Gonne, le congrès wallon de 1905, est-ce qu'il a réussi à renforcer l'identité wallonne et à promouvoir la langue et la culture, puisque c'était ça l'objectif au départ?
Immédiatement après le congrès, oui, jusqu'à la Première Guerre mondiale, clairement, il y a une identité wallonne qui se construit, qui s'exporte de plus en plus à l'étranger. Il y a des, on publie de plus en plus d'ouvrages sur l'originalité wallonne. Il y a des traductions vers le wallon. On crée des expositions d'art wallon, des choses qu'on ne faisait jamais avant. Donc, clairement, juste après, oui. Mais alors, la Première Guerre mondiale provoque une rupture.
Et pourquoi cette rupture de la Première Guerre mondiale?
Bon, pour plusieurs raisons. Déjà parce que en 1918, il y a un élan de patriotisme qui suit la libération. Ça, c'est évident. On essaye d'oublier un peu tout ce qui s'est passé dans les différentes régions en Belgique, que ce soit en Wallonie ou en Flandre, parce que Oscar Colson, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, lui, il a accepté de travailler dans le gouvernement wallon qui a été créé par l'occupant pendant la guerre, parce qu'évidemment l'occupant a bien compris qu'il fallait diviser pour mieux régner, donc lui il a créé, les Allemands ont créé la séparation de la Belgique, donc ça c'est, voilà, pour le régionalisme c'est pas très, très, très très intéressant. Et puis après, à partir de 1921, il y a une loi qui est très importante qui est votée, qui est celle du monolinguisme territorial et du bilinguisme à Bruxelles, ce qui fait que finalement la question de la langue wallonne est passée à la trappe. Et aussi à ce moment-là, en 1920, on décide que il y a une chaire de dialectologie à l'Académie belge. À partir du moment où c'est une chaire de dialectologie, le wallon n'a plus aucune chance de devenir une langue.
Et puis le wallon au fond est parlé par assez peu de gens. Est-ce que c'est un nom, enfin en tout cas au niveau international, je veux dire.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que c'est un frein, ça?
Ah oui, évidemment, c'est une langue locale, c'est un dialecte. Donc, à moins d'être pratiqué par les gens sur le territoire et d'être défendu par les gens en Belgique, il n'a aucune chance de survivre, évidemment, par rapport à une langue internationale.
Alors, on a une idée de l'accueil des Flamands. Hein. Le discours, puis au congrès pointait les exagérations flamingantes. Comment se sont comportés les Flamands en 1905 par rapport à ce congrès, on le sait?
Oh, je pense qu'ils n'étaient fondamentalement pas très intéressés. Évidemment, on en parlait dans la presse, mais c'était, quelques Wallingans se sont réunis à Liège pour parler de l'identité wallonne. Finalement, ça intéressait encore assez peu. Peut-être que, justement, après 1905, on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle opposition. Mais sinon, la Wallonie, ça restait quelque chose de très, très anecdotique.
Alors, on parle, par exemple, beaucoup de peintures flamandes. Certains ont eu l'idée, le souhait de pouvoir réunir, peut-être, les connaissances qu'on a en matière de peinture réalisée par des Wallons. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'on a tenté de réaliser cela?
Eh ben, justement, au congrès, par exemple, de 1905, on a fort insisté sur l'appellation wallon et école wallonne pour tout ce qui était l'art créé en Wallonie. Parce qu'en général, on parle d'école flamande, mais ça ne réfère évidemment pas à la Flandre telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est tout ce qui était fait dans les Pays-Bas à cette époque-là. Donc ça, c'est vraiment l'appellation est très importante et ils insistent sur ça. Mais est-ce que ça a vraiment marché? J'en ai pas l'impression.
Alors vous êtes, vous spécialisez vous dans l'étude de la traduction, Maud Gonne. Est-ce que, bah alors on le disait donc à l'époque, il y a vraisemblablement des traducteurs auprès de personnes qui ne parlent que le wallon. Mais si ça avait été développé beaucoup plus, est-ce que le wallon, à votre avis, aurait pu s'imposer beaucoup mieux?
Ah, je pense qu'effectivement, une bonne politique de la traduction permet de sauvegarder une langue. Déjà, il permet, même si la traduction n'est pas nécessaire, parce que, par exemple, on connaît l'autre langue, ça permet la visibilité de cette autre langue et ça renforce l'identité en général. Donc, je pense que oui, une bonne politique de la traduction aurait pu participer à la sauvegarde du wallon qui, malheureusement, aujourd'hui, est fort menacé.
Et il n'y a plus de traducteurs de wallon aujourd'hui, ça existe encore ?
Oh, si, il y a toujours des gens qui s'intéressent à la langue, à la Scolédie wallon, par exemple, qui s'amusent à traduire vers le wallon ou depuis le wallon. Si, mais ça reste quelque chose pour des amateurs qui ont des productions très intéressantes, hein, c'est pas ça. Mais ce n'est pas un niveau politique ou, voilà.
On a une culture wallonne aujourd'hui, ça existe. Enfin, on peut encore parler de culture wallonne, d'identité wallonne aujourd'hui après ce relatif échec quand même du congrès de 1905.
Ah, je crois que tout un chacun, oui, sans une culture wallonne. Maintenant, quand on voit ce que dans les ouvrages académiques, par exemple, historiques, on dit qu'en général, l'identité culturelle wallonne est plutôt faible par rapport à une identité culturelle flamande forte. Maintenant, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Mais évidemment, il faut chérir notre culture, notre littérature.
Et vous, vous intéressez encore à cette question? Vous cherchez encore autour de cette question de la traduction du wallon, des questions d'identité wallonne aujourd'hui?
Actuellement, vous voulez dire? Non, je m'intéresse surtout à ce qui se faisait à l'époque, parce que c'est un moment qui est décisif, en fait, parce qu'à partir de 1918, l'instruction publique, l'instruction est obligatoire, elle se passe en français, donc à partir de ce moment-là, il y a un déclin du wallon et un réveil du wallon actuellement ne peut être qu'un peu artificiel. En fait.
Les documents sont facilement accessibles, il y a beaucoup de documentation dans les archives, dans les documents que vous consultez.
Oui, il y a énormément de documentation, en fait. Le mouvement wallon est très bien documenté. Maintenant, évidemment, il y a énormément de choses qui sont écrites en wallon. J'ai pris quelques cours, mais voilà, ça reste évidemment difficile d'accès pour les personnes qui ne parlent pas le wallon.
Parce que c'est effectivement très différent du français. Enfin, on se rend compte à travers ce qu'on vient d'entendre, notamment.
C'est très différent. Ben, c'est un dialecte en soi. Et comme on sait, une langue, ce n'est jamais qu'un dialecte avec une flotte et une armée. Je dirais que c'est une langue romane, comme une autre.
Le congrès wallon de 1905, donc résultat des recherches. Hein. Il y a des documents. On peut consulter vos documents, votre article notamment sur le sujet. On peut le consulter. Là, il est en ligne.
Il n'est pas encore en ligne, mais je vous signalerai dès qu'il est. Mais sinon, okay. Il y a d'autres. Oui.
On cherche Maud Gonne de toute façon et on a des liens qui sont donnés sur Internet. Chargé de recherche du FNRS en études de la traduction à l'Université de Namur. Merci beaucoup, Maud Gonne, d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Avec grand plaisir.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Sur la première.
Retrouvez cette émission dans la collection 1000 jours dans l'histoire, rtbf.be/1000jours. À suivre dans l'émission la profession de fermier dans les années 70 avec une archive de la Sonuma. Et puis on entamera après les informations de 14h une série consacrée à Bourville.
Change is in the air. Que diriez-vous de vous envoler vers l'Italie? Après des mois de takeaway ici, il est temps d'aller chercher une pizza là-bas.
Pour moi, une pizza Hawaii, s'il vous plaît.
Ah, qui non si mangia pizza Hawaii, è scandaloso.
Mais qu'est-ce qu'il a?
On dirait qu'ils n'en ont pas. Hein?
Avec Brussels Airlines, voler vers le sud de l'Europe à partir de 39 euros. Modification sans frais. Réservé sur brusselsairlines.com.
Demain, payerons-nous plus d'impôts? Pas parce que la sécu sera scindée, non, mais à cause du climat. Parce que si la Terre se réchauffe, on devra investir dans de nouvelles infrastructures. Cette semaine dans le VIF, opération spéciale, le réveil climatique. Le manifeste des experts Jean-Pascal Van Ipperzeel et Dirk Drolans, disponible en podcast dans le VIF et sur levif.be.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que les enfants ont quitté le nid?
J'ai ma petite idée.
Hein? Oh oui! Une suite parentale dans leur chambre!
Visitez des rénovations inspirantes ce dimanche 27 septembre lors de la journée de la rénovation. Inscription sur journée-de-la-rénovation.be.
Hé! Mais je suis pas encore partie, moi!
Avec le soutien de la première.
La première et le Théâtre National présente Wakat de Serge Aimé Koulibaly. 10 danseurs et 3 musiciens livrent un spectacle puissant sur notre époque bousculée. Porté par la musique de Magic Malik, la violence et la lumière s'entrechoquent et questionnent notre part d'humanité. Au Théâtre National du 22 au 26 septembre. Info théâtrenational.be avec le soir.
Un jour dans l'histoire sur la première.
Laurent de Hausset.
Être fermier dans les années 70 à Boncel, près de Serein, rencontre maintenant avec Arsène Dumais, qui a repris une affaire de famille. C'est un reportage qui est réalisé par le journaliste André Secrétin.
On a commencé la tournée donc en 1911, une tournée de lait.
Donc vous êtes presque les plus anciens laitiers de la province de Liège.
Oui, oui, ça.
Ensuite. Avant, comment se passait une tournée?
Mais à ce moment-là, on vendait le lait en cruche. Alors, on a vendu le lait en cruche, donc depuis 1911 jusqu'à 1969. Jusqu'au moment qu'on a remarqué que le commerce faiblissait.
Et à votre avis, pourquoi la présentation?
Seulement la présentation. Là, on a étudié les différents modes d'emballage du lait et on a trouvé que la bouteille, c'était le mode le plus hygiénique, enfin.
Alors, vous avez commandé des bouteilles dans une globetterie?
Ben, oui, naturellement, on a commandé les bouteilles à l'usine, qui les ont marquées donc sur notre nom. On les a imprimées. Et alors, nous avons acheté des capsules à Bruxelles. On s'est lancé comme ça dans l'aventure, enfin.
Oui, vous venez d'employer le terme aventure, parce qu'en fait, ici, c'est vraiment une entreprise familiale. Vous êtes un peu l'homme orchestre pour le moment, vous avez vu à l'œuvre, mais vous travaillez à combien ici?
Nous travaillons à deux, donc mon frère et moi.
Plus les enfants, quand même.
Oui, les enfants, oui, quand ils ont congé, ils donnent un coup de main, alors... Un petit peu mes parents, un peu ma femme.
Racontez-nous un peu une de vos journées. Comment ça se passe?
Ben voilà, une journée hivernale, on se lève le matin vers 5h15. Moi donc, sur le temps que mon frère traite les vaches, moi je donne la première nourriture aux vaches, c'est-à-dire le foin à toutes les bêtes. Je les balaye, j'arrose les tables et puis je cherche ma camionnette et je vais en tourner à 7h30 jusqu'à 1h. Je rentre dîner, l'après-midi j'ai 2 heures libres, si je peux dire libres, pour m'occuper. Soit d'une réparation d'une machine quelconque, et à 4 heures, de nouveau, on recommence à traire les vaches. Et sur ce temps-là, moi, je donne la nourriture aux bêtes jusqu'à 6 heures. Puis, on met le lait en bouteille. Et ça se termine vers 7h15, 7h30, quand il n'y a pas d'accident.
Vous avez une bonne clientèle, mais quand même une petite clientèle. Vous n'envisagez pas d'agrandir celle-ci?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que nous vendons tout le lait en hiver, donc tout le lait de nos vaches. Alors, nous ne cherchons pas à agrandir notre clientèle. Vu que l'étable a été conçue pour 40 vaches, alors ça nous suffit. Nous avons du travail assez. Ça tourne bien, enfin.
À notre connaissance, il n'y a pas beaucoup en Wallonie de fermiers qui ont agi comme vous, qui se sont modernisés et qui vont directement vendre leurs produits aux consommateurs. Est-ce, à votre avis, pourquoi?
C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont peur de se lancer dans l'aventure parce qu'ils n'ont pas de clientèle. Nous avons une clientèle donc depuis 50-60 ans, on nous connaît. Alors, bien souvent, de mère en fille, ça suit, enfin, nous trouvons des clients comme ça. Nous ne perdons jamais des clients, enfin. Vous comprenez, on reste dans la même région, on nous connaît depuis des années, les gens ont la confiance. Tandis qu'un nouveau qui se lance dans l'aventure, qui n'a pas de clientèle, il doit se créer ça et les gens sont méfiants, enfin.
Oui, mais est-ce que vous n'auriez pas, par exemple, plus d'intérêt à vendre directement votre lait à une laiterie comme les autres fermiers, par exemple?
Question de main-d'œuvre, ça nous coûterait beaucoup moins cher, vu qu'on n'aurait pas tellement de travail. Enfin, un homme suffirait pour tenir la ferme avec 40 vaches, vu que quand les vaches sont traites, le lait est dans le tank à lait, et le lendemain, la laiterie vient chercher, il n'y a pas de travail, tandis que nous avons le double de travail, naturellement, ça nous double notre prix de revient aussi.
Oui, donc un compense l'autre, mais oui, il faut beaucoup travailler.
Travailler beaucoup plus, mais c'est plus agréable parce qu'on est libre.
Arsène Dumais, fermier et laitier à Boncel dans les années 1970, en 1973 exactement. Ici, c'est une archive de la Sonuma. 11 ans plus tôt, en 1961, la Palme d'Or au Festival de Cannes est attribuée à un film d'Henri Colpi, une aussi longue absence. Et c'est Colpi qui écrit les paroles de la chanson qui accompagne son film. La musique est de Georges Delerue. Elle est interprétée par Cora Vauquer, reprise bien plus tard par Yves Montand. 3 petites notes de musique.
Petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. Ça C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour, sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine. La la, mon amour, des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Vrai, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à reprendre à l'unisson. La 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 la, tout rêve rime avec sa chèvre, le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, l'espace d'un refrain. La 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 la. La 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 la.
Trois petites notes de musique, c'était Cora Vauquer. André Rimbourg, dit Bourville, est mort le 23 septembre 1970 à Paris. 50 ans plus tard, on ne se lasse pas de revoir ses films, La Grande Vadrouille, Le Corneau, etc. Entamons aujourd'hui, après 14h, une série en 14 épisodes signée Cécile Posse.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Dans votre PME, chaque collègue est différent.
Oh les gars, faut que j'y aille, j'ai une vidéoconférence.
Les solutions ICT d'Orange transforment vos employés en connected employees. Désormais, ils ont la liberté de se connecter et travailler partout et à tout moment. Intéressés ? Surfez sur business.orange.be/connected employees. Orange.
Quand des conflits éclatent, Moustique analyse. Quand la musique résonne, Moustique se déchaîne.
Moustique, c'est l'actu décodé et la société décryptée. Façon décalée. Moustique, l'hebdo qui pique.
Abonnez-vous maintenant et recevez 23 numéros gratuits sur moustique.be/j'en-profite.
Prendre les transports en commun, c'est ajouter de nouvelles habitudes à votre quotidien. Comme une nouvelle passion, le tricot pour les nuls.
Il n'y a pas pour les très très nuls, mais vraiment bien bien nuls. Hein.
Ou écouter des podcasts.
Oh là, j'étais prise dans mon podcast, j'ai raté mon arrêt.
Alors, rajoutez les transports en commun à vos nouvelles habitudes. Une campagne de la STIB, de l'AEN, le TEC et de la SNCB.
La première, la 3 et BNP Paribas Fortis présente
le 35e Festival International du Film Francophone de Namur. Des films, des débats, des rencontres, des animations. Du 2 au 9 octobre, venez partager le cinéma en vrai, en grand. Plus d'infos, fif.be.
Avec TV5, l'avenir, la Loterie Nationale et le soir.
Profel. En tant qu'expert Profel, des questions sur le placement des portes et châssis, j'en entends. Celle-ci, c'est un grand classique.
Le montant indiqué sur votre devis était raisonnable, mais quelle sera la différence avec votre facture, hein?
Alors j'explique que tout est mesuré et calculé en détail à l'avance, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise à la fin. D'où notre promesse, notre devis, c'est votre facture. Découvrez toutes nos promesses et profitez de nos conditions d'automne exceptionnelles.
Profel.
Portes et châssis avec une promesse, la transparence.
Surfez vite sur profel.be.
Les informations, c'est avec Diane Burgel-Vernet.
Il est 14h. Bonjour.
Bonjour. Depuis 2 heures déjà, tous les présidents de partis qui tentent la mise sur pied de la Vivaldi, plus la première ministre Sophie Wilmès, sont réunis au palais d'Aiguemont. Il s'agit d'accorder les violons alors que les deux préformateurs doivent en principe faire rapport au roi et que le SPA ne veut plus du MR à table, sauf si les libéraux acceptent les accords déjà bouclés et des avancées sociales et fiscales. En interne, officiellement, le MR fait front derrière son président de parti. C'est l'attitude de Georges-Louis Boucher qui est critiqué par les socialistes flamands. Et le bureau a réaffirmé sa volonté absolue de travailler pour arriver d'ici au 1er octobre à un accord sur la formation d'un gouvernement de plein exercice. Il réunirait ce gouvernement, le PS, le SPA, l'OpenVLD, le MR, Écolo Groen et le CDNV. La Belgique doit faire